Jean chapitre 14. C'est la nuit avant
la crucifixion.
C'est quelque temps après que Jésus a instauré le repas du Seigneur. Et ce qui est à la fois merveilleux et curieux, c'est que Satan et Dieu travaillent dans la même ligne droite, avec des buts complètement différents. Satan, qui ne veut rien d'autre que détruire. Dieu, qui veut offrir son Fils comme l'expiation de tout péché, le sacrifice parfait. Et donc Dieu qui se sert finalement de Satan pour accomplir sa volonté, Judas envoyé dans la nuit. Et ensuite, Jésus donne le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, que nous avons étudié dimanche. Suivi par, encore un rappel, qu'il va partir, et l'incompréhension des disciples qui s'explose, et Pierre qui dit, mais même si les autres vont te trahir et t'abandonner, pas moi. Et la triste réponse de Jésus que non, même lui va renier trois fois le maître. Et donc c'est avec tout ceci en tête que nous arrivons, parce qu'il n'y avait pas de coupeur, ben, c'est plutôt nous qui avons besoin de s'arrêter parce que c'est tard, et on ne peut pas tout voir entre les chapitres 13 et 17 si on veut bien le faire, mais ça continuait. Et donc ils sont maintenant curieux, perturbés, attristés. Le Seigneur répond direct au cœur et dit, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que ce langage est à peine compréhensible. Ils comprennent évidemment les mots. Ils parlent la même langue. Mais ce qui veut dire partir et trahison et tout, dans leur esprit, c'est tout ce qui est de contraire parce que, en fait, il vient pour célébrer la Pâque. Tout est vraiment sur le chemin de victoire en ce qui concerne leurs idées. En fait, ce qu'ils attendent réellement, c'est ce que nous voyons en Ésaïe, chapitre 2. Verset 2, il commence, « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera par-dessus des collines. » Et que toutes les nations y affoleront, des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de toutes ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera arbitre de peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Et ça, c'est ce qu'ils attendent de lui. Que il vient dans sa gloire, que le royaume s'établisse, que même les Romains réalisent que Dieu est Dieu et ils ne le sont pas, et que eux, avec toutes les nations du monde, viennent à Jérusalem pour louer le Seigneur, pour apprendre la loi, qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, car le Messie va régner, et eux, ils savent que c'est Jésus, ils attendent ça. Et puis c'est curieux, maintenant il commence à parler de trahison, d'aller à quelques endroits Ça sonne faux, ils ne comprennent pas. Et Jésus, donc, en réalisant ce qui se passe dans leur cœur, il dit, vous croyez en Dieu, alors croyez en moi. Et c'est vrai, ils croyaient déjà en Dieu, ils croyaient dans son Messie. Et il y a un temps pour que ces choses arrivent. Dieu n'a jamais menti à son peuple. Comme il est dit aussi en Jérémie 33, « Autant que j'ai fait une alliance avec le ciel et la terre, et que je ne briserai pas cette alliance, autant que je ne briserai l'alliance avec mon peuple. » Et donc, il n'a pas l'intention d'éliminer ça. Mais ce n'était pas pour maintenant. Il y a un accomplissement futur. Il y avait quelque chose d'important, extrêmement important, et c'est le problème du péché qui devait être résolu. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous ne comprenez pas. C'est ce genre d'exhortation qu'on a quand on ne comprend pas. Et puis, la seule chose qu'on arrive à faire, c'est de comprendre et de croire. Tu es bon. Dieu est juste, mais Dieu est un Dieu de grâce. C'est cette exhortation. Et donc, il commence à parler des choses célestes, parce que c'est déjà sur son cœur. Ce n'est pas un hors-sujet. En fait, ça tombe plein dans le sujet. Parce que Jésus doit partir. Et il va le dire en chapitre 16, il dit que c'est même bénéfique pour vous que je parte. Il faut que je parte pour vous. Ça fait partie du plan de Dieu. Et en parlant de notre demeure éternelle, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quelqu'un a comparé ça avec l'immensité de l'univers. Et ça, c'est par contre le monde physique. Nous savons que tout ce qui est physique, ce monde et l'univers, ça va être dissous dans un instant pour faire place pour ce qui est éternel et sûr et qui ne détruise jamais. Mais déjà, quand on regarde l'immensité de l'univers, le fait que c'est toujours en croissance, même aujourd'hui, on n'arrive pas à mesurer l'univers parce que ça grandit tellement. L'immensité de la main d'œuvre de Dieu comparée à notre petite planète et tout ce que nous voyons ici à la complexité de notre atmosphère et notre monde qui puisse soutenir la vie désignée parfaitement par Dieu. Et puis, quand on regarde toutes ces choses dans sa grandeur et immensité, c'est ce même Dieu, donc, qui nous prépare une place. Et nous réalisons que cette place que le Seigneur nous prépare doit être magnifique. Parce que tout ce qui est de l'au-delà est toujours mieux de ce qui est ici. Souvent, par exemple, les gens disent, est-ce que au ciel, on aura la capacité de connaître les autres gens. Non, c'est pas comme une fois en paradis, nous serons plus bêtes que maintenant. Non, nous aurons un corps ressuscité, avec des capacités mentales supérieures, avec des capacités physiques supérieures. Et encore plus, nous ne serons plus embêtés par la nature pécheresse, qui ralentit justement nos capacités mentales et autres ici-bas. Et de cette même manière que le corps ressuscité sera supérieur, nettement supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui, de même, un demeure sera éternel, sera mieux. Alors, c'est vrai qu'un demeure éternel, c'est différent parce que une fois avec Christ dans l'éternité, on n'aura plus jamais besoin des mêmes choses dont on a besoin ici. On n'a pas besoin de stocker des choses, de garder nos affaires. Il n'y aura pas de péché. Il n'y aura même pas besoin de dormir pour se renouveler physiquement. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert? On ne sait pas à quoi ça sert. Mais ce que nous savons, c'est que même dans le Nouvel Jérusalem, les portes et les murailles sont construites des pierres précieuses. Les rues sont construites des pavés d'or. Tout ce que nous considérons comme des choses précieuses ici-bas, ce sont des matériaux communs là-bas, pour nous donner une idée à quel point c'est supérieur en toute chose. Et avec tout ceci, aujourd'hui, en pensant à ceci, j'ai eu ce sentiment que je ne valorise pas demeure future comme je dois le faire. Tout simplement parce que souvent dans notre monde, on est bien, bon, c'est mon anniversaire, donc il y a un certain confort aujourd'hui pour moi. Mais nous vivons en fait sur terre et pas au ciel. Et si on dépense toutes nos énergies en faisant notre vie un paradis, je crois que nous dévalorisons dans nos esprits le paradis et nous nous faisons tort finalement. Car quand Jésus dit ces choses, c'est pour nous donner envie d'y aller. Et voilà une bonne question. Avez-vous envie d'y aller? Et c'est ça ce qui est important. Pour être avec Christ pour toujours. Et il y va pour nous préparer une place. Alors il y a une autre chose qui est assez intéressante. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et c'est intéressant parce que depuis longtemps, on sait qu'il parle, non de l'envoi de l'Esprit, parce que c'est vrai qu'avec l'Esprit, nous sommes en communion donc avec le Père. Mais que c'est à interpréter physiquement, il reviendra pour nous. Mais comme il ne parle ni du jugement, ni de la nouvelle ordre, nous avons l'idée que c'est Christ qui vient pour nous prendre avec lui. Et ça, c'est pourquoi je crois fermement que c'est un texte parallèle avec ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, où Paul écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec ceux dans les nuées, à rencontre du Seigneur dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres avec ceci. Et donc, ce que je vois, c'est que quand Jésus revient pour nous prendre avec nous, ça ne peut pas être non plus quand il revient des morts, parce qu'il n'a pas pris les disciples avec lui. Et comme il est dit en Thessaloniciens, qu'il vient pour nous prendre dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et puis nous serons toujours avec lui, comme il dit ici, il reviendrait pour nous prendre avec lui, dans sa demeure éternelle. Et comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de fin du monde, c'est pourquoi je crois que c'est un passage qui parle de l'enlèvement de l'Église. C'est Jésus à mon sens, qui revient pour prendre l'Église avec lui dans les airs. Donc il parle de ces choses futures. Et où je vais, vous en savez le chemin. Donc, où je vais au Père, vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Ils sont toujours dans la confusion, ils comprennent pas où il va. Et Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, ce qui est totalement radical avec ce qu'il dit, et c'est une phrase radicale, d'abord, c'est la répétition de « je suis ». C'est ce rappel, donc, à Moïse, le « je suis qui je suis », le grand nom de Dieu. Il dit « je suis le chemin ». Mais le chemin, en fait, selon l'enseignement de l'époque, et même aujourd'hui, pour le peuple juif, le chemin, c'est la loi. Selon Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. C'est un chemin, donc. C'est la loi qui nous montre le chemin vers Dieu. Et c'est en empruntant ce chemin que nous arrivons à Dieu. Et Jésus dit non, je suis ce chemin. Donc, je suis l'auteur de la loi, je suis l'accomplissement de cette loi, et je suis la totalité de la révélation de la parole de Dieu, je suis la parole de Dieu, je suis ce chemin. Je suis la vérité. Là encore, c'est la loi pour eux. C'est même dans leur prière, ta loi est vérité. Jésus dit, non, je suis la vérité. Ça vient de moi et je suis la vie, comme il a dit depuis le début. En lui se trouve la vie. Et donc, avec cette phrase, il couvre toutes les bases. Et j'avoue que c'est une phrase très exclusive. Ça élimine toute autre réponse. Et ça, c'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter, si nous croyons en ce que Jésus a dit, qu'il puisse arriver un autre. Ça, c'est pourquoi Paul a écrit ceci en Galates, chapitre 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qui soit anathème. » Si Jésus est le chemin, la vie et la vérité, ça élimine toute autre réponse, tout autre prophète, tout autre message, même si c'est un ange ou un soi-disant prophète qui le dit. Et ce n'est pas que nous, en tant que chrétiens, nous nous croyons supérieurs. Parfois, on a même du mal à dire les mots. En fait, c'est le maître qui l'a dit. Et nous, qui avons mis notre foi en lui, nous ne faisons rien d'autre que répéter ce qu'il a dit parce que nous y croyons. Et nous avons goûté et nous avons trouvé que c'est vrai. Et ce n'est pas ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour vous. Il élimine cette possibilité aussi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et ça se passe par une relation. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Ça commence par la foi, puis obéissance. Obéissance à sa parole. Et quelle est cette obéissance de ce qu'il demande? Il a déjà dit en Jean 6, lorsqu'il a parlé de cette multiplication des pains. Verset 28, il lui dit, que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? Jésus leur dit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. Et ensuite, il y a l'amour. Il dit maintenant, en connaissant Jésus, il dit, vous connaissez le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres. Il dit, vous connaîtrez le Père en me connaissant. Nous croyons en un seul Dieu. Comme il dit en Deutéronome 6, écoute, ô Israël, l'Éternel, votre Dieu, est un seul Seigneur. Il est un Dieu en trois personnes. Et c'est ce grand mystère, mais c'est un seul Dieu. Donc, en connaissant Jésus, nous voyons toutes les qualités du Père. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est une description de cette relation que le Seigneur veut avec nous. Tellement que Jésus était dans le Père, qu'il avait tellement de communion avec lui. Et même de voir Jésus, on dit, bah, ça c'est le Père. Ça c'est ce qu'il veut de nous. Que nous soyons tellement en lui, tellement en communion avec lui, transformés par lui, que quand les gens nous voient, ils nous voient, ils voient Christ en nous. C'est l'exemple de tout ce qu'il veut pour nous. Et il dit, croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si nous croyons à cause de ses œuvres, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grand, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc d'abord, les œuvres qu'il a faites. Il a dit, si vous croyez, donc vous serez donc en moi et vous ferez des plus grandes œuvres. En réfléchissant ce que Jésus a dit concernant lui et le Père, il a dit, je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je vois chez le Père. Et donc, de même, si nous sommes en Christ, les œuvres que nous ferons seront des œuvres que nous avons vues chez Jésus, ce que Jésus nous a montré de faire. Et donc, c'est Jésus qui travaille au travers de nous. En ce qui concerne les œuvres plus grandes, les apôtres, ils ont fait des œuvres plus grandes dans le sens que Jésus, il avait seulement 12 disciples. Et puis, il y avait à peu près 500 personnes à la périphérie de ce petit noyau. Mais le premier jour de Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui se sont converties. Et donc, en ce qui concerne les plus grandes œuvres, en fait, ce que nous voyons, c'est que c'est plutôt dans l'ampleur. Parce que le plus grand œuvre de Christ, c'est ce qu'il a donné sa vie et qu'il a repris. Qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie. Mais nous n'allons pas donner notre vie pour qui que ce soit. Et nous n'allons pas nous ressuscitons nous-mêmes. Mais ce que nous ferons et ce que nous faisons, c'est que nous marchions dans l'imitation de Christ. Et depuis ce temps-là, pendant ces 2000 ans, pensons à tous ces âmes qui ont été sauvées, ces milliers, millions d'âmes sauvées par l'Église, par Jésus qui travaille dans son peuple. Certes, il y avait des guérisons, certes, il y avait des grandes choses. Même Pierre a ressuscité Tabitha, et il y avait des grandes et merveilleuses choses. Mais il n'y a pas de plus grand œuvre qu'une âme sauvée. Et l'Église continue cette œuvre de salut dans ce monde. Et comment justement est-ce que l'Église travaille dans ce monde? D'abord par la prière. Nous prions ensemble. Pierre, avant de ressusciter la petite, il a prié. Justement, quand Pierre était en prison, l'Église a prié. L'Église prie ensemble et les choses se passent. C'est un des travaux que l'Église a dans ce monde, et de prier ensemble. Et donc quand il parle de prier au nom de Jésus, bien évidemment, ce n'est pas la formule magique, je prie au nom de Jésus, mais c'est de prier dans l'esprit de Jésus, en communion avec Jésus. Et ça marche comme ça. Nous sommes d'abord remplis du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui habite corporellement en nous, qui nous change et qui nous donne les désirs de Dieu. Et donc avec ces désirs en nous, nous, par cette intelligence aussi renouvelée, nous mettons ces choses devant Dieu. Mais en réalité, ce sont des désirs que Dieu a plantés dans notre cœur, parce que notre nouvelle nature est changée. Nous avons envie de voir ce que Dieu veut. Nous voulons voir sa volonté faite. Et donc nous commençons à prier selon ces désirs qu'il a mis dans nos cœurs. Et comme c'est lui qui a mis le désir dans notre cœur, et nous prions dans ce sens, quand c'est le moment, et quand il estime que c'est nécessaire, c'est lui qui répond à cette prière qu'il nous a donnée dans le cœur. Et ça marche ainsi. C'est encore en Christ et en complètement en relation avec lui. Et c'est pour ça que ces prières sont tellement efficaces. Parce que c'est né en Dieu et c'est opéré en Dieu et c'est reçu de Dieu. Et c'est pour ça que ça marche à tous les coups. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours ce que nous voulons. Parce que il y a justement des exhortations, comme par exemple à la fin de Jacques, si quelqu'un est malade, qui vient devant les anciens et qui loin de lui et il impose les mains. Et la prière d'un homme juste à l'efficacité de relever les morts. C'est ce que Jacques dit, Jacques chapitre 5. Mais Dieu, dans sa souveraine sagesse, sait ce qui est de mieux. Et donc, il y a une histoire que je connais, un pasteur qui a perdu justement son fils, qui n'avait que 12 ans. Son fils était atteint d'un cancer. Et ça a ravagé le corps de son fils. Et puis, bien sûr, il priait de toute sa force. L'Église a prié. Ils ont imposé les mains. Mais tout au long de cette terrible maladie, l'Église a prié pour d'autres choses. Ils ont vu tous ces autres accomplissements de leur prière. Dieu a exaucé toutes ces autres choses. Mais concernant cette chose-là, son fils, Dieu a décidé que le fils devait revenir à la maison. Et le pasteur, des années après, a témoigné en fait que il priait selon la volonté de Dieu et il a eu une espèce de relâche ou de paix qui a rempli son cœur lorsqu'il a commencé à prier « Que ta volonté soit faite », sachant que c'était la volonté du Père de reprendre ce qui lui était le plus cher. Alors, ça semble dur pour nous, mais si on demande à cet homme, et il le dit aujourd'hui, même avec les larmes aux yeux, il dit que finalement, l'œuvre que Dieu a fait dans ma vie et dans la vie de ma femme, même si je ne comprends jamais, je vois comment Dieu a changé le mal en bien. Et que finalement, il a fait des choses qu'il n'aurait jamais pu avant. Et donc nous voyons que ce n'est pas toujours ce que nous voulons, mais c'est toujours bénéfique. Et c'est ça ce que veut le Seigneur, de prier dans ce sens au nom de lui. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. D'abord, cette relation que les apôtres avaient, le Saint-Esprit, et c'est lui dont il parle, il demeure près de vous. Jésus, c'est lui qui est le plus rempli du Saint-Esprit du monde. Avec le temps, ils ont reconnu cette qualité, le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit à ce point-là. Et donc, il est près d'eux. Mais le Saint-Esprit n'est pas encore venu en eux. Pas à ce moment en histoire. C'était pour après. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas tout à fait ce qu'ils voulaient dire. Et encore en parlant d'orphelin, ça renforce ce qu'il a dit dès le début, qu'il va partir. Parce que du coup, de parler d'orphelin, d'abandonnement, ça a choqué. Et donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui remplit le rôle qu'il exerçait avant. Mais une dernière chose, c'est que il faut dire que les musulmans parfois utilisent verset 16 pour parler de Mohammed. Et ils disent que cet autre consolateur, en fait, c'est Mohammed. Parce que le mot consolateur est paraclé. Paraclé, qui veut dire quelqu'un qui se tient à côté. Et donc, comme Mohammed est venu comme un prophète, donc, il se tenait à côté du peuple pour parler. Donc, ils disent que même Jésus parlait de sa venue. Or, ils se trompent. Et c'est intéressant qu'ils ont employé le mot grec. Parce que s'ils avaient bien regardé le mot juste avant paraclé, le mot allon en grec, qui est traduit autre, en fait, ce mot allon veut dire le même, notre, de la même nature que. Donc, ils se trompent lourdement. Parce que Jésus dit que je vais vous envoyer quelqu'un d'autre de la même nature que moi. Et donc comme il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité, il s'est proclamé Dieu dès le début. S'il veut vraiment tenir ce verset en tant que prophétie, autrement dit, Mohammed se dit Dieu. Et nous savons que pour eux c'est un blasphème, mais justement d'ailleurs. La dernière fois que quelqu'un m'a sorti ce verset pour me dire que c'était une prophétie de Mohammed, j'ai dit, ah ben tiens, je ne savais pas que Mohammed était Dieu. Choqué, tout de suite, il m'a répondu, mais comment tu peux dire ça, c'est un blasphème. Et j'ai dit, ah mais, vous savez que Jésus en fait proclamait qu'il est Dieu. Et puis je lui ai montré que ce autre mot, autre, en fait, veut dire autre de la même nature. Et ce n'est pas seulement ça, on ne doit pas être expert de grec. Il suffit de continuer de lire le verset. Un verset qui continue juste après. Un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Est-ce que Mohammed était éternellement avec eux? Je crois qu'il est mort dans le 7e siècle. Et puis, si ce n'était pas assez, il continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et ça, c'est intéressant. Finalement, il dit que c'est l'esprit de vérité. Et Mohammed était bel et bien un homme. Et dernièrement, c'est curieux que Jésus termine la phrase en disant que le monde ne peut pas le recevoir. Montrant finalement le comble de cette mauvaise interprétation. Ben, ils ne comprennent pas parce qu'il ne vient pas de lui. Le monde ne peut pas comprendre. parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Bon, on en parlera plus dimanche. Et Jésus continue. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et donc, encore cette relation. En allant plus loin, donc, Jésus vient en nous grâce au Saint-Esprit. Maintenant, sa capacité physique de travailler dans le monde est multipliée par le nombre de ses croyants, parce que le Saint-Esprit est en nous tous. Et le plus que nous connaissons, donc Christ, le plus que nous connaissons le Père, et par la suite, nous sommes de plus en plus en lui. C'est notre position spirituelle. Nous sommes en lui. Mais c'est aussi la réalité. Nous sommes en lui comme nous sommes dans, en la famille. Mais nous sommes en lui, entourés. Et donc, ces commandements, aimer Dieu, aimer les uns les autres, c'est toujours l'amour, la relation. Et le plus que nous aimons les uns les autres, le plus que nous connaissons Christ, je me manifesterai à celui qui m'aime, il dit, verset 21. L'amour, donc, nous ouvre une porte par l'obéissance. Nous connaissons de mieux en mieux notre Sauveur. C'est la manière que nous montrions notre amour. J'aime bien le cœur des enfants, mais je vais vous ennuyer encore avec une autre histoire de mes enfants qui ont aussi un désir dans leur petite enfance de louer Dieu. Et il y avait une époque où une de nos filles écrivait des petites lettres d'amour de Dieu à Dieu, et puis les laisser sur le seuil, en fait, de la fenêtre, dehors, quand elle allait se coucher. Puis c'était joli, Dieu, je t'aime, et puis des choses comme ça. Et puis, déçu de les revoir le matin. Donc, il fallait expliquer que, en fait, nous montrons notre amour pour Dieu en aimant les autres. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, et puis haïr notre sœur qu'on voit tous les jours et dispute, avec qui on dispute tous les jours. Que c'est ainsi que nous montrons notre amour pour Dieu. Et bien sûr, c'est pas seulement les petits, mais ça marche avec nous les grands. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Et c'est normal qu'il dise ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ce n'est pas toi qui va être sur Sion, ou Sion sera la montagne où toutes les nations vont rassembler pour entendre la parole prêchée. Et comment tu vas pas te manifester au monde? C'est une bonne question. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus, il répète ce qu'il dit, sachant que les disciples n'avaient pas la capacité parce que, comme il a dit, le Saint-Esprit, il est près de vous, mais il sera en vous. Ils n'ont pas été illuminés par le Saint-Esprit, pas encore. Donc, il répète ces choses et c'est comme tout ce qu'il a dit était enregistré sur leur mémoire. Et ça va être plus tard que ça va venir, parce que il continue et dit, je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera de tout ce que moi, je vous ai dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, plus tard, quand il vient, pour les apôtres, ont illuminé leur intelligence pour qu'ils comprennent tout ce qu'ils ont reçu de Jésus. C'est comme Jésus était comme un informaticien qui écrit le programme, le logiciel. Et puis, c'est Jésus finalement qui les met en marche lorsque le Saint-Esprit descend sur eux. Et maintenant, ça fonctionne. C'est déjà préparé dans leur esprit. Mais ça, c'est pourquoi les apôtres ont eu et ont cette autorité pour écrire l'Écriture. Parce que le Saint-Esprit leur a fait rappeler de tout ce qu'ils ont dit. C'est pour ça qu'ils ont décrit avec tellement de détails. C'est aussi pour ça qu'ils ont eu cette autorité d'écrire le Nouveau Testament. Et ça, c'est pourquoi aussi, souvent, il y a des passages dans le Nouveau Testament qui sont si profondes que même aujourd'hui, il y a 2000 ans, qu'on a toujours du mal à comprendre la profondeur de tout ce qui est dit. C'est avec le temps que nous arrivons à comprendre ce que Christ a dit. Eux, ils comprenaient suffisamment pour écrire tout ce que Jésus a dit. Mais comment mettre ça en parole? Pour la majorité parmi eux, ils ne sont pas des gens qui ont fait des grosses études. Il y avait Paul qui avait fait des grandes études et qui avait une certaine éloquence. Mais même Paul, quand il écrit ces choses, parfois, il est limité par la capacité humaine d'exprimer une pensée. Et c'est pour ça que c'est tellement profond. Comme le livre romain, par exemple, ou Thessaloniciens, des choses qui sont tellement profondes que tout est dit. Eux, ils comprenaient, tout est là. Mais ça, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous pouvons passer toute notre vie à lire et relire les Écritures et il y aura toujours quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu avant. Parce que la profondeur des Écritures sont à ce point-là, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés, qui les a rappelés de tout ce qu'il a dit. Et eux, ils l'ont appris de la part de Dieu lui-même, donc Jésus. C'est pour ça qu'il y a cette profondeur. Et ça, c'est pourquoi, oui, certes, il peut avoir une parole de prophétie ou quelqu'un qui a une parole pour un autre ou des choses de cette manière-là, mais ça n'aura jamais la même ampleur et autorité que les apôtres. L'Écriture reste telle qu'elle, et on n'a pas besoin de plus. Mais ne me dis pas qu'on comprend tous aujourd'hui. On ne peut pas. Dieu garde toujours ses secrets. Et c'est ça ce qui fait de lui Dieu, finalement. Il est Dieu, mais nous faisons notre mieux, et c'est le Saint-Esprit, justement, qui nous illumine. Et ça, c'est pourquoi il y a des moments où Dieu, en lisant son parole, il nous donne, il nous enseigne quelque chose. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez avoir le meilleur des pasteurs ou des enseignants. Vous pouvez avoir Billy Graham ou John MacArthur lui-même en chair devant vous, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est nul. Vous n'allez rien apprendre de ce qui compte réellement. Parce qu'il faut l'Esprit. Il faut l'Esprit pour que nous allions plus loin. C'est lui qui nous enseigne. Et donc, nous avons besoin, donc, bien sûr, des pasteurs, des enseignements, de l'Église globalement. Car l'Église est le temple du Saint-Esprit. Et donc, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne veux pas donner comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas pour rejoindre ce qu'il a dit tout à l'heure. La paix de Dieu, la paix de Christ, c'est cette paix qui dépasse la connaissance. C'est pas « je ne te tue pas parce que tu ne me tues pas ». On peut être gentil les uns avec les autres, poli avec les uns les autres, même si on se haït les uns les autres secrètement. Mais ça, c'est la paix du monde. La paix de Christ est supérieure en tout point de vue. Car c'est une paix qui réconcilie. C'est une paix remplie d'amour. C'est la paix qui dit, même si tu me fais du mal, je t'aime par la puissance de Dieu parce que Dieu m'aime. C'est la paix qui est remplie d'amour. Et vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Et si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Et c'est normal, quand on considère tout ce que nous avons en Christ, cette merveilleuse relation, nous ne pouvons pas avoir cette relation si Christ n'est pas parti et le Saint-Esprit n'est pas venu. Finalement, c'est mieux ce que nous savons aujourd'hui. Il revient vers le Père. Le Père est plus grand que lui, encore le mystère de la Trinité. Le Père est plus grand que Jésus, mais ils sont un. Jésus est Dieu, mais il s'est soumis au Père. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que le Père, que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous et partons d'ici. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi parce qu'il était innocent complètement. Nous, par contre, nous ne sommes pas. Et l'accusateur vient. Il nous montre le droit et il dit, bah oui, tu es menteur, ou ah oui, tu n'as pas dit toute la vérité là, ou parce que tu as dit, bah en fait, ça ne glorifie pas Dieu. Il a raison. Or, nous sommes justifiés. Nous sommes en Christ. Et si nous avons cru en lui, donc nous avons reçu par la foi la justice de Christ. Et quand Dieu le Père nous voit, c'est avec la justice de Christ. Et ça, c'est pourquoi Jésus, notre défenseur, est notre avocat. Et ça, c'est pourquoi le diable n'a rien en nous non plus, finalement. Quand Jésus prend notre défense, oui, peut-être il est pécheur, mais moi, je suis mort pour Mike. Je suis mort pour lui. J'ai pris sa place. Il m'appartient. Il a ma justice. Et ça, ce que nous avons en Christ, dans cette relation que nous connaissons.